Je ne vous apprends rien en commençant mon message d'aujourd'hui. Mais nous vivons à une époque où la tromperie est devenue un art très répandu. Très répandu. La tromperie, c'est-à-dire le mensonge. Et ça touche pratiquement tous les aspects de la vie humaine. Le monde des affaires, les relations personnelles, le monde de la publicité, le monde politique, tous les domaines de la vie. Et c'est tellement décevant quand on voit les mensonges qui nous sont transmis. Il y a des gens qui disent, à qui est-ce qu'on pourrait se fier aujourd'hui? Vous savez, on joue sur les mots, on joue sur les perceptions, on joue sur les images pour tromper. En fait, pour cacher des choses ou les faire paraître différentes de ce qu'elles sont en réalité. C'est ça, tromper. C'est ça, induire en erreur. C'est donner à quelque chose une autre apparence, comme si c'était autre chose que ce qui est là. Et le monde en général, je vais vous le dire tout de suite, le monde en général n'aime pas la vérité. Le monde en général n'aime pas la vérité. La vérité, en fait, ne fait pas partie de la nature humaine que tous les êtres humains ont. Pourquoi? Parce que les êtres humains aiment entendre quoi? Ils aiment entendre ce qui leur plaît, ce qui leur est agréable, ce qui ne les oblige pas à changer. Ils n'aiment pas entendre ce qui est vrai parce que ça les dérange. Exactement. Vous allez voir au cours du sermon, j'ai certains exemples qui vont vous aider dans ce sens-là, puis qui vont nous aider aussi à nous reconnaître parce qu'on est des êtres humains avec la nature humaine. Vous savez, même si les gens ne croient pas trop, par exemple, aux politiciens, par expérience, à cause de toutes les autres élections qu'il y a eu avant, où les promesses n'ont pas été livrées. Et je me rappelle d'un vieux politicien qui nous disait, écoutez, la promesse d'un pont ou d'une route, là, d'habitude, c'est bon pour 4 ou 5 élections. Ça dit tout, là. Vous pouvez mentir tant que vous voulez, mais pendant 4-5 élections, les gens vont vous croire puis vont voter pour vous autres. Exactement. Ça, c'est la façon humaine de procéder. Et même si les gens ne croient pas trop les politiciens par expérience, à chaque élection, les voteurs vont voter et ils aiment à se faire croire. Ils aiment à penser que tel ou tel parti va leur donner des choses qui ne coûteront pas grand-chose. Ils vont leur donner. Mais s'ils leur donnent finalement, ce qu'ils ne réalisent pas, c'est qu'eux autres vont les payer. C'est que c'est eux autres qui vont payer la note. Et ça, c'est vrai aussi sur le plan spirituel. La même chose. Les gens aiment croire ce qu'ils ont appris, ce qu'ils pensent être vrai. C'est ce qu'ils aiment croire, absolument. À ce sujet, Jésus donne un précieux avertissement. Allez dans Matthieu, chapitre 24. Matthieu, chapitre 24. Jésus nous avertit très clairement. Matthieu, chapitre 24. On va lire les versets 24 et 25. Car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Et là, ici, le Christ parlait surtout au temps de la fin, au moment où nous sommes. Il y aura de faux Christ, de faux prophètes. On voit les fausses religions se multiplier et se contredire les unes les autres. Il y aura de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront de grands prodiges et des miracles au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Même ceux que Dieu a appelés et qui se sont mis en marche pour lui obéir et que le Christ a choisi pour qu'il fasse partie de son équipe en préparation pour gouverner le monde. Il dit, c'est tellement subtil que c'est même à risque pour les élus, au point de séduire les élus s'il était possible. Et pour que ça ne soit pas possible d'être séduit, il faut être proche de Dieu puis vraiment être ancré dans la vérité. Il faut aimer la vérité puis en vivre. Il dit, voici, je vous l'ai annoncé d'avance. Il nous avertit. Il y a même un imposant et puissant faux prophète particulier qui va paraître bientôt sur la scène mondiale. Et ce grand faux prophète-là va faire même descendre du feu du ciel. C'est écrit noir sur blanc dans les textes. Vous irez voir Apocalypse 13 et le verset 13. Apocalypse 13, verset 13, ce grand faux prophète va attirer les foules, va faire descendre du feu du ciel sur son commandement. Alors, comment les gens pourraient ne pas croire ou ne pas penser, même si c'est erroné, que c'est vraiment un envoyé de Dieu? Alors que ce ne sera pas un envoyé de Dieu. Ce sera encore un subterfuge de l'adversaire. Allez dans 2 Thessaloniciens, le chapitre 2. 2 Thessaloniciens, le chapitre 2, où il est question de ça. C'est bon qu'on le voit de proche. 2 Thessaloniciens, chapitre 2, on va lire les versets 1 et 2. C'est Paul qui parle aux membres de l'Église de la ville de Thessalonique. Pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Autrement dit, il dit, en ce qui a trait au retour du Christ qui a été annoncé, le Christ va revenir. Il dit, ça a été annoncé, Paul l'a annoncé à plusieurs reprises. Il dit, en ce qui a trait au retour du Christ, là, et à notre réunion avec lui, parce que lorsqu'il va venir, on sera unis à lui, nous vous prions, frères, de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens et de ne pas vous laisser troubler, soit par quelque inspiration, soit par une parole ou par une lettre qui semblerait venir de nous, comme si le jour du Seigneur était déjà là. Pourquoi Paul dit ça? C'est parce qu'à son époque, il y avait des gens qui avaient affaire avec l'Église de Dieu et même qui faisaient partie de l'Église de Dieu qui annonçaient que le Christ était déjà revenu. Il y a d'ailleurs des religions actuellement qui prétendent que le Christ est revenu et qui vit caché quelque part. Le même genre de mensonge. Alors, c'était une tromperie. Il faisait croire que le Christ était revenu. Et c'est ça que Paul dit ici. Il dit, ne croyez pas ces choses-là. Et vous allez voir après, il dit, il faut qu'il y ait des choses précises qui soient arrivées avant pour que le Christ revienne. Et ça va être des signes clairs de l'approche de sa venue. Paul, il dit, ne vous laissez pas tromper. Il y a des choses précises qui doivent d'abord se produire. Regardez le verset 3. Et là, Paul précise au verset 3 les événements qui doivent d'abord se produire avant que le Christ revienne. Verset 3. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant. L'apostasie, c'est quoi? C'est une rébellion à l'échelle mondiale, d'une très grande envergure contre Dieu, contre ses fêtes, contre ses lois. Ça peut sembler impossible, mais ce sera ce qui va arriver. Ce sera ce qui va arriver. Vous irez voir dans Apocalypse 13, c'est écrit dans Apocalypse 13, versets 11 à 18. Apocalypse 13, versets 11 à 18, ça décrit cette grande rébellion généralisée de grande envergure qui aura lieu sous la pression et animée par ce grand faux prophète. Alors, il dit, il faut que l'apostasie soit d'abord arrivée. Et qu'on ait vu justement paraître l'impie, le faux prophète, le fils de la perdition, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu et de ce qu'on adore. Voyez-vous, ce personnage humain-là va se prétendre un personnage très important spirituellement et il va même se prétendre Dieu, comme il mentionne plus loin. Il va, ce grand faux prophète, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu à Jérusalem. Pas parce qu'il y aura un temple, mais la Bible explique que Jérusalem est considérée comme étant le temple de Dieu. Alors, ce grand personnage-là ira à Jérusalem faire des choses importantes, extraordinaires, se proclamant Dieu lui-même. C'est pas peu de choses, là. Se proclamant Dieu lui-même. Il va dire, c'est moi qui suis Dieu. C'est ça que ça veut dire. Mais vous savez qu'en ce moment, il y a un grand personnage qui porte le titre de vicaire du Christ. Vicaire, ça veut dire remplaçant. C'est déjà là. C'est déjà en marche. C'est déjà inscrit. Allez au verset 8 maintenant. On voit que c'est le Christ qui va détruire ce faux prophète à son arrivée. Verset 8. Et alors paraîtra l'impie, le faux prophète, que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche et qu'il écrasera par l'éclat de son avènement. Quand le Christ va revenir, il va dire, c'est assez. Vous n'irez pas plus loin avec ces mensonges-là. Et Dieu va détruire cet homme-là, qui est un être humain. Il va savoir qu'il est un être humain à ce moment-là, parce qu'il ne dirigera rien, il ne pourra pas s'en sauver. Alors, ce grand faux prophète, en fait, sera à la tête d'un système gigantesque sur la scène mondiale. Et ce système gigantesque, la Bible l'appelle la Grande Babylone. C'est tout un système mondial qui est en train de se développer, de se former pour la dernière étape. Et la structure de ce système, la Grande Babylone, est en train de se développer actuellement en Europe. Et c'est ce que nous avons l'obligation de suivre pour comprendre ce qui se passe et voir ce qui vient. Ça se développe sous quatre aspects. Ça se développe sur le plan religieux, ça se développe sur le plan politique actuellement, et on sait que les 27 ou 28 nations de l'Europe vont être réduites à un nombre de 10, comme la Bible nous dit au temps de la fin, et ils vont donner leur puissance à la bête, à l'autorité militaire, économique de l'Europe, c'est-à-dire l'Allemagne qui en sera à la tête. Système économique aussi, et système militaire. Et là, on voit que déjà les choses viennent de changer, parce que au cours des dernières années, les armes nucléaires étaient éliminées graduellement des pays. Mais là, à cause de la guerre Russie-Ukraine et de la menace de l'utilisation de l'arme nucléaire, les nations commencent à se réarmer de l'arme nucléaire. Alors, ça fait partie de la prophétie et ça nous montre que ce système-là est vraiment en train de se développer. Vous irez voir dans Apocalypse 18, versets 1 à 4. Vous ne le donnerez pas, mais vous irez le voir, je vous le résume. Parce que Dieu a prédit, dans le passage que je vous donne, Apocalypse 18, versets 1 à 4, Dieu a prédit la fin de ce système. Et il déclare dans ce passage-là, « elle est tombée, Babylone la grande. » Il transmet le message par un de ses anges à la fin. Et après ça, au verset 4, il s'adresse à nous et dit, « faites attention, sortez d'elle. Sortez de Babylone la grande. » On ne peut pas partir en voyage, là. Mais ne participez pas à ce qu'elle fait. Ne croyez pas ce qu'elle vous enseigne. Ne croyez pas ce qu'elle veut vous faire faire. Restez différents parce que vous avez été appelés. Vous avez reçu la vérité. Sortez d'elle, mon peuple, pour ne pas participer à ses péchés et aussi, donc, pour ne pas avoir part à ses fléaux, pour ne pas subir les conséquences que la grande Babylone qui va être détruite subira. Verset 9 du même 2 Thessaloniciens, chapitre 2. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, voyez-vous, des tromperies, des choses qui paraissent venir de Dieu, mais qui ne viennent pas de Dieu, avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers, pas vrais, mensongers, et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent. Pourquoi ils périssent? Parce qu'ils n'ont pas la connaissance de la vérité, ils ne s'en vont pas vers la vie éternelle, parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Et ça, ce petit bout de phrase-là, ici, est très important. Ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Pour aller vers le salut, il faut que Dieu nous appelle. Il nous révèle la vérité. Et quand on aime la vérité et qu'on la met en pratique, il nous protège, il nous guide, il nous aide à passer à travers les difficultés. Mais pour ceux qui ne sont pas appelés pour l'instant, Dieu n'est pas injuste, il va les appeler plus tard. Mais pour le moment, ils ne s'en vont pas vers la vie éternelle. Ils s'en vont vers la destruction, tout simplement. La clé ici, pour ne pas être séduit, pour ceux qui ont été appelés, pour ne pas être trompé, c'est de recevoir cette vérité-là, qui est révélée par Dieu. C'est un don lors de notre appel. C'est de prêter oreille à cette vérité-là, de l'aimer et d'en vivre avec le courage que ça prend et avec la persévérance que ça prend. Comme Paul a fait. Paul a passé par des épreuves épouvantables pour rester fidèle à Dieu. Mais c'est un exemple pour nous aussi. Espérons qu'on n'aura pas à passer par les choses aussi extrêmes que lui a connues. Mais il est un exemple pour nous dans ce sens-là. Allez dans 2 Timothée chapitre 4, juste un peu plus loin dans votre Bible. 2 Timothée chapitre 4, Paul en parle. Versets 6 et 7. Car pour moi, je sers déjà de libation, et le moment de mon départ approche. Paul savait ici qu'il allait mourir bientôt. Alors il dit, le moment de ma mort approche. Verset 7. J'ai combattu le bon combat. Non seulement il était sorti d'elle, sorti de Babylone la Grande, mais il a tenu bon dans une autre façon de vivre que celle enseignée par Babylone la Grande. Il dit, j'ai achevé la course. Donc, j'ai été persévérant. J'ai passé à travers des épreuves. J'ai eu des décisions difficiles à faire. Je les ai faites. J'ai passé à travers avec l'aide de Dieu. J'ai gardé la foi. Parce que j'ai fait ça, Dieu m'a donné la foi nécessaire. Verset 8, désormais, la couronne de justice m'est réservée. Ça, c'est la couronne de gloire à la résurrection. Recevoir la vie éternelle. Faire partie de la famille de Dieu. Faire partie de son gouvernement pour changer le monde. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là, le jour où le Christ va revenir. Et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son retour, son avènement. Comme vous, comme moi. On l'a aimé, cet avènement-là. On l'attend, on le demande chaque jour, puis on voit les gens souffrir autour. Et ce jour-là, si nous sommes persévérants comme Paul, nous recevrons aussi la couronne de gloire. Mais là, Paul va un peu plus loin, puis ça nous donne une leçon aussi. Paul parle et donne un exemple contraire au sien, dans l'Église, à l'époque. Un homme autour de lui, un de ses proches, un membre de l'Église qui n'a pas gardé l'amour de la vérité. Regardez le verset 10. Car Démas, il parle de cet homme-là, Démas, m'a abandonné. Pourquoi? Par amour pour le siècle présent. Et il est parti pour Thessalonique. Démas s'est détourné. Pour lui, là, c'en était trop. Il ne pouvait pas continuer. Autrement dit, pour cet homme-là, pour Démas, quand on regarde le contexte, ça devenait comme trop lourd à supporter. Il ne voulait pas accepter de persévérer dans la même direction. Son monde, en fait, s'effondrait. Paul avait été arrêté. Paul avait été arrêté plusieurs fois, avait été battu, avait été lapidé. C'est ce qui s'était passé. Et au moment où Démas a quitté l'Église, c'est que l'apôtre Pierre était sur le point d'être arrêté lui aussi. Alors, ça n'allait pas trop bien pour ce membre de l'Église, là. Mais on a toujours le choix. On met nos yeux sur qui? Sur les circonstances ou sur le Dieu qui peut nous aider à passer à travers, comme Dieu a aidé à Paul à passer à travers. Tout ça lui arrivait en même temps. Alors, Démas a abandonné Paul. Il est retourné dans le monde, à son ancienne vie, à ce qu'il savait, à ce qu'il croyait, à ce qu'il aimait. Dans le fond, Démas ne voulait pas être associé à Paul. Il ne voulait pas être arrêté comme Paul. Il ne voulait pas souffrir. Il ne voulait pas avoir à payer un prix pour les choses qu'il croyait. Donc, il a aimé le monde plus que Dieu. Il a aimé son ancienne vie plus paisible, moins exigeante que la nouvelle vie que Dieu lui montrait, plus exigeante. C'est un choix. Ça reste toujours un choix. Il a aimé la vie plus facile, plus qu'il a aimé la vérité exigeante. La vérité, elle est exigeante. Quand on la sait et qu'il faut changer, on est encore en train de changer. On n'aura pas fini tant que le Christ ne sera pas revenu. Mais c'est exigeant. Ça demande de la persévérance. Mais c'est ceux-là. Le Christ dit très bien dans Matthieu 24, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Juste celui-là et celle-là. À notre époque, nous avons encore la vie assez facile dans plusieurs pays, même si on a tous des difficultés. Difficultés financières, difficultés de santé, problèmes de famille ou problèmes autres. Mais quand vous regardez l'histoire de l'Église à travers les siècles, on voit des gens qui ont rencontré des persécutions horribles. On n'a pas connu ça pour la plupart d'entre nous. Eux ont connu des persécutions à tel point qu'ils se sont enfuis de pays en pays au Moyen Âge. On voit ça dans l'histoire de l'Église. Certains sont morts, certains ont été tués. D'autres ont passé à travers avec l'aide de Dieu et ont tenu bon. Pourquoi? Par amour de la vérité. Ils ont payé le prix, mais ils seront là debout pour recevoir leur couronne de justice comme Paul aussi. Vous savez, quand les choses deviennent difficiles, certains reculent, même s'ils connaissent la vérité. Il y a un moment difficile, un moment charnière où on doit vraiment faire un choix et demander l'aide de Dieu pour y tenir. Allez dans Jean chapitre 12. L'évangile de Jean au chapitre 12. Jean chapitre 12, à ce sujet-là, le Christ donne un exemple concernant les chefs religieux de son temps. Pas juste les chefs religieux, mais les chefs, les hommes qui étaient en autorité dans son temps, dans sa région. Jean 12, verset 42. Regardez leur réaction, eux qui connaissaient la vérité. Ils avaient entendu la prédication du Christ, connaissaient la vérité, mais regardez comment ils ont réagi. Cependant, parmi les chefs de la société, les hommes importants, les hommes connus, les hommes qui avaient des postes, cependant, même parmi les chefs, plusieurs crurent en lui. Ils ont vu que ce que le Christ annonçait était vrai, c'était solide, ça venait du Père. Mais, à cause des pharisiens, à cause des chefs religieux, de ceux qui n'étaient pas d'accord avec la prédication du Christ, ils n'en faisaient pas l'aveu. Ils ne le disaient pas ouvertement. Dans la crainte d'être exclus des synagogues, de ne plus pouvoir aller avec les autres à leur église, OK? Car ils aimèrent la gloire des hommes plus que la gloire de Dieu. Alors, ils ont choisi de se soumettre aux hommes, même si ce n'était pas la vérité, plutôt que de se soumettre à la gloire de Dieu et de préparer un avenir extraordinaire. Dans le fond, là, si on explique ce qui s'est passé, c'est que ces hommes-là, les chefs de son époque, ne voulaient pas être différents des autres alentours. Ils ne voulaient pas que ça paraisse qu'ils croyaient différemment de l'ensemble des gens qui étaient là. Ils ne voulaient pas déplaire à ceux autour. Et vous savez, quand on vit autrement, à un moment donné, qu'on change des choses, on n'a pas le choix. Ça déplaît à des gens autour. Veux pas. On l'a vécu, mon épouse et moi, dans notre famille aussi. Il a fallu passer à travers ça, faire les choix en conséquence. Mais on est encore là, près de 50 ans après. Si on n'avait pas fait ces choix-là, on ne serait pas là. Où on serait, ça, c'est une autre affaire. Mais on ne serait pas là, on ne serait pas à l'église. On n'aurait pas cet enthousiasme par rapport aux choses qui s'en viennent. Ces gens-là ne voulaient pas perdre non plus, c'était des chefs, là, des hommes importants. Ils ne voulaient pas perdre leur occasion d'affaires. Ils ne voulaient pas perdre leur ami, leur relation, leur statut social. Ils ne voulaient pas perdre l'estime des autres, et pas juste ça. Ils ne voulaient pas non plus être ridiculisés, parce qu'on est ridiculisé par les autres, parfois et même souvent, lorsqu'on commence à changer des choses. Qu'on commence à observer, par exemple, un jour que les autres n'observent pas autour. Et que la vaste majorité des chrétiens à travers le monde observent. Ils observent le dimanche, nous on observe le sabbat. On est un petit peu différent. Et les gens ne peuvent pas comprendre, ils ne peuvent pas l'accepter. C'est à nous de faire les choix en conséquence. Voyez-vous, pour ces chefs-là, qui avaient des postes importants, qui avaient sûrement de l'argent, qui étaient à l'aise, leur entourage, les circonstances de leur vie, leur semblaient plus réelles, comme si ça allait durer tout le temps, ça-là. Ça leur semblait plus réel que Dieu. Dieu est réel. Et Dieu est éternel. Et Dieu, lui, veut nous donner la vie éternelle. La petite vie que ces hommes-là avaient, ça fait longtemps qu'elle est finie. Mais ils ont pris un autre chemin. Ils ont pris une autre direction. Il y a un principe qu'il faut se rappeler ici. Plus nous apprenons à connaître le vrai Dieu, le Dieu des 10 commandements, le Dieu du sabbat, le Dieu des fêtes, le Dieu du retour prochain du Christ, plus on fait ça, plus tout le reste dans notre vie perd de l'importance. Vrai ou pas vrai? C'est vrai. Il faut en venir à être prêt à tout abandonner même, s'il le faut. Et un jour, les circonstances vont faire que ça sera comme ça. Regardez le verset 43, je le répète, « Car ils aimèrent la gloire des hommes plus que la gloire de Dieu. » On veut plaire aux autres autour, mais on ne s'occupe pas de plaire à Dieu. Allez dans Galates chapitre 1. C'est Paul qui parle de lui-même, de son expérience, et qui nous montre la nature de ses choix, d'obéir à Dieu, et ce que ça veut dire. Ça va exactement dans le sens de ce que je vous explique. Galates 1, verset 10, il décrit son attitude dans tout ça. Galates, chapitre 1, et le verset 10. « Et maintenant, est-ce la faveur des hommes que je désire, comme les chefs de l'époque du Christ, qui désirait la faveur des hommes. » Paul, il dit, c'est pas la faveur des hommes que je désire, moi, là. Est-ce que c'est la faveur des hommes que je désire ou celle de Dieu? C'est clair que Paul désirait trouver faveur aux yeux de Dieu et non pas aux yeux de ses voisins ou de ses amis ou de ses pères. Est-ce que je cherche à plaire aux hommes ou si je cherche à plaire à Dieu? C'est le choix. Et regardez ce qu'il dit après. j'ai souligné, moi, ici, dans ma Bible, cette phrase-là. Si je plaisais encore aux hommes, s'ils m'acceptaient, s'ils me trouvaient gentil, s'ils veulent être mes amis, s'ils veulent faire des choses avec moi, si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Dieu. C'est clair. C'est clair et c'est fort et c'est profond. Si je cherchais à plaire aux hommes, je ne serais pas serviteur de Dieu. Quand Dieu nous appelle, on veut devenir son serviteur. On ne l'est pas encore. Puis c'est difficile les choix à faire. Puis ça ne se fait pas en une seule journée, mais il faut y travailler avec son aide pour devenir vraiment des serviteurs de Dieu. Vous savez, quand on connaît la vérité et qu'on en vit, il y a des obstacles à surmonter. On n'a pas le choix. Et il y a des défis qui apparaissent qui n'étaient pas là avant, quand on faisait comme tout le monde. Qu'on participait à leur divertissement, à leur sortie, à leur fête, à Noël, à Halloween, à tout ce que vous voulez. Mais quand on arrête de faire ça, on est moins intéressant pour les autres. Et on est même bizarre. Mais quand on connaît la vérité, c'est ça qui arrive. Il y a des obstacles, il y a des défis à surmonter. Et il y a des pertes à subir. On perd des amis. Il y a des parents qui n'aiment pas nous voir tellement. On a perdu des gens dans ce sens-là. On les aime pareil profondément. Et on sait qu'un jour, Dieu va les appeler. Mais c'est pas le temps. Lui sait. Quand c'est le meilleur moment d'appeler chaque individu. Le Christ a dit quelque chose d'important là-dessus, qui nous rassure et qui nous montre ce qu'il en est exactement, et qui nous montre en même temps qu'on doit prendre des décisions solides pour le suivre. Matthieu chapitre 10. Allez dans Matthieu chapitre 10. Ça, c'est un passage qui nous surprend énormément les premières fois qu'on lit ça, parce qu'on avait souvent des préjugés par rapport au but que le Christ était venu accomplir sur la terre lors de sa première venue. Regardez ce que le Christ dit ici. Il dit qu'il n'est pas venu apporter la paix. Pourtant, c'est le prince de la paix. Mais ce n'est pas là qu'il est venu pour apporter la paix. Il va apporter la paix quand il va revenir d'ici quelques brèves années. Il va imposer la paix. Il va mettre fin aux guerres complètement dans sa puissance. Là, il était venu pour donner sa vie, pour payer l'amende de nos fautes. Il était venu pour révéler le Père, pour révéler le plan de Dieu et pour appeler des disciples. Ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. Ce n'était pas le moment à ce moment-là. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. Oh. Car je suis venu mettre la division entre l'homme et son père, entre la fille et sa mère, entre la belle-fille et sa belle-mère. Pourquoi? Parce que celui dans une famille qui change, il ne plaît pas aux autres. Il devient bizarre. Il devient différent. Ça devient inconfortable pour les autres. Alors, ce faisant, quand l'appelé se met à changer des choses, automatiquement, les gens autour ne sont pas confortables et ne l'acceptent pas. Dans certains cas, les gens vont respecter quand même le choix que vous avez fait, mais ce n'est pas toujours le cas. Parfois, il y a de l'opposition et parfois, il y a de l'opposition féroce. Et c'est pour ça que le Christ dit ça. Il n'est pas venu dans le but de créer des problèmes de famille. Mais ce qu'il dit ici, c'est que ceux qui se mettent à vivre selon ces lois auront des problèmes dans leur famille, avec leurs proches, au travail, et ainsi de suite. Il y en a même qui ont dû abandonner leur travail ou qui ont été congédiés. Ils avaient refusé de travailler le jour du sabbat. Voyez-vous? Alors, ça vient avec. Et c'est ça que le Christ dit ici. Je ne suis pas venu, dans le fond, pour que ça existe, mais parce que vous allez suivre mes voies, vous allez avoir des conflits. Et l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. Même ennemi. Pas juste non d'accord, pas d'accord, là, mais ennemi, s'opposer férocement. Celui, et là après il explique le principe un peu. Il dit celui, en sous-entendant celui qui est appelé, là, celui qui est appelé, qui aime son père ou sa mère plus que moi, n'est pas digne de moi. Autrement dit, moi si j'avais accepter les directives de mon père à ce moment-là, quand je lui ai parlé de ma religion, si j'étais entré dans le bercail et retourné avec lui à l'Église catholique, je ne serais pas là aujourd'hui, mais je n'aurais pas été digne du Christ. C'est ce qu'il dit ici. La question s'est posée, je l'ai vécu. Et après ça, les choses se sont rétablies avec mon père. Ma mère n'était plus accommodante. Les mamans sont comme ça, des fois, le cœur de mère. Mais finalement, mon père a accepté. Et je l'ai respecté. Même si moi, je n'allais plus à la messe, quand il était vieux, j'allais le conduire à la messe. Pourtant, je ne crois pas à la messe et je n'y vais jamais. Mais il y a une question de respect envers mon père. Mais voyez-vous, il est devenu contraire à moi, pas à peu près, beaucoup, là. Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Et celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Si je fais des compromis avec la loi de Dieu pour faire plaisir à un enfant, à mon enfant, pour qu'il m'aime encore, qu'il vienne encore me voir, voyez-vous, là, il dit, faites pas ça, parce que si vous faites ça, vous démontrez que vous n'êtes pas digne de l'appel que je vous ai lancé. Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. Donc, il y a des écueils, il y a des épreuves, il y a des tests à traverser, mais avec son aide, on est capable d'y arriver. Notre changement de vie, je reviens à ça, c'est que ça produit inévitablement des réactions autour de nous autres. Ça produit inévitablement des conflits. Pas parce qu'on veut les provoquer, mais parce qu'on a commencé à changer, ce sont là les réactions des autres. Et ça, je ne peux pas rien y faire. Ils sont libres, c'est leur choix. J'essaie d'être le plus gentil possible avec eux et de leur dire, c'est mon choix, respectez-le, je respecte le vôtre, mais ça ne peut pas aller plus loin que ça. Absolument pas. C'est pas parce qu'on veut que ce soit de même, c'est parce que ça dérange automatiquement les gens autour qui ne peuvent pas comprendre. Vous savez, on ne peut pas non plus leur reprocher de ne pas comprendre les choses qu'il nous est donné à nous de comprendre. Parce que ça ne leur est pas donné encore. Ça va leur être donné plus tard. Ça va leur être donné plus tard. Voyez-vous, il faut faire ces nuances-là aussi pour voir comment on se situe dans tout ça, pour respecter les autres, mais respecter d'abord Dieu et faire notre chemin avec son aide dans tout ça. Plus nous vivons selon la vérité, plus ça doit paraître dans notre vie. C'est pour ça que ça crée des réactions autour. Parce que si personne n'a connaissance de rien depuis que vous êtes devenu chrétien, c'est pas bon signe. C'est pas bon signe parce qu'il ne vous voit pas aller au sabbat, il ne vous voit pas changer vos habitudes, ainsi de suite. Alors, il faut qu'à ce moment-là, ça paraisse un peu. Ça apparaît dans tous les aspects de notre vie, dans notre façon de traiter notre conjoint, dans notre façon de traiter nos enfants, nos parents, nos voisins, nos patrons. Ça apparaît dans ce qu'on fait. Maintenant, je veux vous apporter une précision qui est importante. Je me suis amusé en préparant le message à approfondir certains détails pour que ça nous aide. L'amour de la vérité dont Paul parle, qu'on doit avoir pour aller au salut, ce n'est pas quelque chose de naturel. C'est absolument pas naturel. Plus que ça, c'est contraire à votre nature humaine et à ma nature humaine. C'est contraire à tous les êtres humains. C'est pas une chose naturelle. Vous irez voir Jérémie 17, verset 9. Notez bien, Jérémie 17, verset 9. C'est très clair, ça le dit ici, mais dans d'autres mots, que la vérité et l'amour de la vérité, ça ne vient pas automatiquement et ça ne peut pas venir de nous. Jérémie 17, verset 9. Le cœur, donc le cœur de l'homme, est tortueux par-dessus tout. Ça, c'est tous les êtres humains. Et il est méchant au point de départ. Et on voit, rendu au temps de la fin, que le cœur humain est de plus en plus méchant dans toutes les atrocités qu'on voit se multiplier. Il dit, le cœur humain est tortueux par-dessus tout et il est méchant. Qui peut le connaître? Au verset 10, ça dit, Dieu peut le connaître. Et Dieu connaît le cœur de ceux qui l'appellent et il est capable de transformer le cœur de ceux qui l'appellent. Mais ça nous démontre que l'amour de la vérité, ce n'est pas naturel. Il faut que ça nous soit donné. Il faut l'aimer, il faut la développer. Et il y a un autre verset qui explique ça aussi. Vous irez voir, je vais vous le citer. Proverbe 28, verset 26. Proverbe 28, verset 26. Ça dit ceci. Celui qui a confiance en son propre cœur, dans son cœur humain. Celui qui a confiance en son propre cœur est un insensé. Ouh! C'est gros, là. Celui qui a confiance en son propre cœur est un insensé. Pourquoi? Parce que s'il a confiance à son propre cœur, c'est qu'il suit ses propres pensées. Il est convaincu que ce qu'il pense, c'est la vérité. Et que c'est la bonne chose. Mais la vérité doit nous être donnée par Dieu. C'est ça la différence. Absolument. Mais au point de départ, l'être humain a confiance en son cœur. Et vous savez, tous les êtres humains ont raison. J'ai eu raison tellement longtemps avant que Dieu m'appelle et de me montrer que je n'avais pas raison sur grand-chose. Et que la splendeur de ce qu'il me montrait, c'était ça qui était important. C'est la sagesse qui vient de Dieu par l'obéissance à ses lois qui est importante. Pourquoi devons-nous ne pas nous fier à notre propre cœur? Je vais aller plus loin. Pourquoi est-ce qu'on ne doit pas se fier à notre propre cœur, à notre façon personnelle de voir les choses? Et chaque individu a sa façon de voir les choses. Pourquoi on ne doit pas se fier à notre propre cœur et à notre façon personnelle de voir les choses? Parce que nous avons tendance, humainement, et c'est naturel, à chercher quoi? À chercher ce qui nous est agréable. C'est vrai, pas vrai? On cherche ce qui est agréable. On cherche la voie facile. On cherche ce qui est facile. On cherche ce qui nous plaît, ce qui ne nous dérange pas. On ne cherche pas par nature ce qui est juste selon Dieu, ce qui est vrai selon Dieu et ce qui est bon pour nous. La preuve, c'est qu'on a tous fait dans notre vie des choix qui nous ont amené plein de problèmes. On est allé dans des directions qui n'étaient pas bonnes pour nous et on a eu des conséquences mauvaises. On a aimé ça le faire, même si on savait que ce n'était pas correct. Okay? C'est ça, c'est exactement ça. Là. Alors, humainement, on a tendance à chercher ce qui est agréable, ce qui plaît, mais pas ce qui est juste selon Dieu. Je précise encore plus, avec plus de nuances, c'est que notre vérité personnelle devient pour nous la vérité. Mettons ça de même. Notre vérité personnelle, ce qu'on a appris, ce qu'on croit, ce qu'on pense être juste, ça devient la vérité pour nous. Et cette vérité-là, au point de départ, ce n'est pas la vérité de Dieu. Il nous montre une vérité totalement différente. Il nous amène à un autre monde, une autre façon de voir, une autre perspective. C'est complètement différent. Vous savez, par nature, l'homme, je reviens à ça, n'aime pas la vérité. N'aime pas la vérité. Ne veut pas mettre en doute ce qu'il pense et ce qu'il croit. Vrai, pas vrai? On ne veut pas mettre en doute ce qu'on pense et ce qu'on croit. Et ne veut pas admettre ses erreurs. L'être humain ne veut pas admettre ses erreurs au point de départ. On a un exemple dès le début de l'humanité. L'histoire d'Adam et Ève. Dieu avait dit, vous pouvez manger tous les arbres du jardin, mais ne mangez pas de cet arbre-là. Parce que si vous faites ça, vous me déclarez que vous ne voulez pas suivre mes lois, mais que vous voulez faire ce que vous voulez faire, selon vos choix, que vous voulez vous-même déterminer ce qui est bien et ce qui est mal. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris l'arbre du bien et du mal. Ils se sont détournés de Dieu. Quand Dieu les a confrontés avec ces fautes-là, avec la réalité, avec la vérité, qu'est-ce qu'ils ont fait? Est-ce qu'ils ont admis? Non, ils n'ont pas admis leur faute. Ils se sont accusés mutuellement. Adam dit, c'est pas moi, c'est elle. C'est elle. Elle m'a amené à pécher. Et elle s'est tournée de bord. Elle dit, c'est pas moi, c'est le serpent. Alors voyez-vous, la nature humaine a joué son rôle. On n'accepte pas la vérité. Et on ne veut pas changer. Ça a été la même chose avec le roi Saül. On ne s'y reportera pas. Vous pourrez voir ça vous-même, si vous voulez, dans la Bible. Quand le premier roi sur Israël, Saül, a eu comme mission de Dieu d'éliminer une nation au complet, y compris le roi et les animaux, qu'est-ce qu'il a fait? Il ne l'a pas fait. Et quand le prophète de Dieu, envoyé par Dieu, lui a dit, tu n'as pas fait ce que Dieu a demandé, il dit, oui, je l'ai fait, là, mais c'est pas moi qui ai pris les animaux, c'est le peuple qui a pris les belles brebis, et moi, j'ai juste gardé le roi, et il n'a pas reconnu ses erreurs, parce que la nature humaine refuse au point de départ de reconnaître ses erreurs. On a un exemple différent, par contre, dans la Bible, il n'y a pas juste un, mais il y a le roi David qui nous donne un exemple complètement différent de ça. Le roi David, pourtant, à un moment de sa vie, a commis une série de fautes très graves. Vous vous rappelez l'histoire de son adultère avec Bathsheba. Le roi David, au lieu d'aller au combat avec ses troupes, était resté au palais. Il a vu une jeune femme se baigner nue par la fenêtre du château. Il l'a fait venir, il a couché avec elle, elle est devenue enceinte. Elle lui a dit, et le mari de cette femme-là était un des soldats importants de David au champ de bataille. David a trouvé un moyen d'effacer ça, de mentir. Alors, il a fait venir Uri, le mari de Bathsheba, en espérant qu'il irait coucher avec sa femme et que l'arrivée de l'enfant passerait sur le fait que c'était l'enfant de Uri. Mais Uri, un homme loyal envers David et loyal envers ses collègues de l'armée, quand il est venu au palais du roi, il a refusé d'aller coucher avec sa femme, d'aller à sa maison, parce qu'il dit, mes collègues sont au front, je ne peux pas faire différent d'eux. Alors, il n'est pas allé. Donc, ça ne réglait pas le problème, là. David était pris avec ce problème-là. Bathsheba était enceinte, l'enfant s'en venait. Et qu'est-ce qui est arrivé après qu'Uri est retourné au champ de bataille, n'ayant pas été couché avec son épouse, il l'a fait tuer, tout simplement. Alors, une série de péchés, un après l'autre, une série de fautes pour tromper. Ce qui est arrivé, c'est que plus ou moins un an après l'événement, Dieu a envoyé Nathan, son prophète, au roi David, et lui a fait prendre conscience de son problème, de la série de fautes qu'il avait faites. Allez dans 2 Samuel, s'il vous plaît. 2 Samuel, verset 12. 2 Samuel, chapitre 12, versets 1 à 4. L'Éternel envoya Nathan vers David, et Nathan vint à lui et lui dit, « Il y avait dans une ville deux hommes, l'un riche et l'autre pauvre. Le riche avait des brebis et des bœufs en très grand nombre. Le pauvre n'avait rien du tout qu'une petite brebis qu'il avait achetée. Il la nourrissait et elle grandissait chez lui avec ses enfants. Elle mangeait de son pain, buvait de sa coupe, dormait sur son sein, et il la regardait comme sa fille. Un voyageur arriva chez l'homme riche, et le riche n'a pas voulu toucher à ses brebis et à ses bœufs pour préparer un repas au voyageur qui était venu chez lui. Il a pris la brebis du pauvre et l'a apprêtée pour l'homme qui était venu chez lui. » Verset 5, « La colère de David s'enflamma violemment contre cet homme, et il dit à Nathan, « L'Éternel est vivant, l'homme qui a fait cela mérite la mort, et il rendra 4 brebis pour avoir commis cette action et pour avoir été sans pitié. » Alors, David était irrité de cette histoire, mais c'était un exemple de ce que lui avait fait. Et regardez ce que Nathan lui dit après. Et Nathan dit à David, au verset 7, « Tuez cet homme-là, c'est toi qui as fait ça. Tu as fait le mal pour te cacher. » Et Dieu dit au verset 12, un peu plus loin, regardez ce qu'il dit. Verset 12. Car tu as agi en secret. Oh, les tromperies, c'est souvent en secret, hein, par le côté. Tu as agi en secret, David. Et moi, je ferai tout ce que je viens de te dire en présence d'Israël à la face de ce soleil. Et regardez la réaction juste que David a eue, pas celle d'Adam et Ève. Regardez comment David a répondu. David dit à Nathan, j'ai péché contre l'Éternel. Je reconnais que j'ai fait le mal et je veux changer. Et Nathan dit à David, « L'Éternel a pardonné ton péché. Tu ne mourras point. Mais parce que tu as fait blasphémer les ennemis de l'Éternel en commettant cette action, le fils qui t'est né mourra. » Alors le petit bébé n'a pas vécu. C'est ce qui est arrivé en plus des autres conséquences que David a dû subir. Alors la réaction de David, il n'a pas trouvé d'excuse. Il ne s'est pas caché une fois de plus. Il a exprimer son repentir, le regret, reconnaissance d'avoir péché. Il a reconnu, aimé, dans le fond, la vérité qui lui était révélée plus que le mensonge. Il a accepté, même si ce n'était pas facile, la réalité, la vérité, pour agir en conséquence. Il a accepté, au fond, la correction, même ça, la perte de l'enfant, et il y a eu d'autres choses après qui lui a été imposées comme punition. Il a même accepté la correction, même si c'était pénible. Pourquoi? Parce que c'était la vérité. Il a aimé la vérité, il a accepté la vérité. Oui, il avait péché, bien sûr, gravement. Et comme on voit, il avait même ajouté péché à péché au cours de l'histoire. Ça, c'était sa vérité. Pour ça, je le mentionne dans ce sens-là. C'était devenu sa vérité, son modus operandi, ce en quoi il croyait et qui était attaché pour pensant pouvoir s'en sortir. Mais face à la réalité, face à la vérité, il a agi selon Dieu qui nous dit de nous repentir et de travailler à changer, même si c'est difficile de reconnaître nos fautes et de travailler à changer et qu'on ne peut pas le faire tout d'un coup. Écoutez, ça ici, vous en avez tous une dans vos mains actuellement et à la maison aussi, et parfois plusieurs copies. Ce que vous avez entre vos mains, c'est la vérité. C'est la vérité de Dieu, la vérité la plus précieuse. C'est pour ça que le Christ a dit dans Jean 17, verset 17, « Ta parole est la vérité. » C'est ce à quoi nous devons nous attacher. Est-ce que vous l'utilisez régulièrement pour changer réellement, pour obéir de mieux en mieux, pour apprendre à compter sur Dieu, même dans les moments difficiles, dans les creux de vagues, Parce que la Bible nous montre que dans les creux de vague, parfois la seule ressource qu'on a, dans les pleurs qu'on peut avoir ou dans les inconforts totaux qu'on peut avoir, c'est de demander à Dieu au secours. Aidez, 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 aide-moi. Parfois, c'est la seule chose qu'on peut lui dire, mais il réagit. Je lisais un passage encore l'autre jour qui est tellement encourageant. J'aime l'Éternel, car il entend ma voix et mes supplications. Et parfois, on n'a pas d'autre solution que de dire à Dieu, je ne peux rien faire, aide-moi, montre-moi, aide-moi à passer à travers. Si nous nous appliquons à aimer la vérité comme Paul parle, ça veut dire la garder, la chérir, l'appliquer. Qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on reste proche de Dieu. Et qu'à ce moment-là, on avance vers la vie éternelle que Dieu veut nous donner. Et ça, c'est la clé de notre croissance spirituelle. C'est la clé de notre vraie liberté. Allez dans Jean chapitre 8. C'est la clé de la vraie liberté que Dieu offre aux humains qu'il appelle, un par un, pour faire partie de son petit troupeau actuellement, en préparation pour les grandes choses qui viennent. Jean 8, versets 31 et 32. Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui. Il y a des Juifs qui ont cru en lui. Alors, le Christ leur dit ici, vous avez cru en moi? Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Si vous demeurez dans la parole que je vous donne, si vous la mettez en pratique, si vous l'explorez, si vous l'analysez, si vous la lisez chaque jour, si vous y réfléchissez pour l'appliquer dans votre vie courante, vous êtes mes disciples. Quelle que soit l'opposition autour de vous et quelles que soient les circonstances contraires qui peuvent vous arriver. Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Si c'est le cas, verset 32, vous connaîtrez la vérité, parce qu'on ne la connaît pas tout d'un coup. Et même si au retour de Christ, on aurait été dans l'Église pendant 50, 60, 70 ans, pour certains, on sera encore en train de la connaître plus profondément. C'est jamais, jamais terminé. Il dit, vous connaîtrez la vérité de plus en plus et la vérité vous affranchira, vous libérera de toutes les craintes humaines qu'on a de ce qui arrive après la mort, de pourquoi les choses sur la scène mondiale deviennent si terribles. Il y a une raison à tout ça, et il y a un but à tout ça, et il y a une fin à tout ça, comme Dieu l'a annoncé. Et il y a une bénédiction superbe et puissante pour ceux qui mettent en pratique dans ce sens-là la parole de Dieu. Je vais un petit peu plus loin parce que quand on fait notre étude biblique, là, si vous êtes comme moi, il y a certains passages là, dans la Bible qui nous rendent inconfortables. C'est vrai. Il y a certains passages qui nous rendent inconfortables parce qu'on voit, c'est comme si Nathan nous parlait, là, comme quand Nathan a parlé à David. Pourquoi certains passages nous rendent inconfortables? Parce qu'ils nous corrigent. Parce qu'ils nous montrent ce que nous avons encore à changer. Même après des années dans l'Église. Et vous savez, c'est bien que ce soit comme ça. Il faut que ce soit comme ça si on veut progresser. Parce que ça nous pousse à agir, ça nous pousse à changer avec l'aide de Dieu. Il faut que ce soit comme ça. Et qu'on le fasse si on veut vraiment être un serviteur de Dieu. Tout simplement. Un serviteur du Christ. En terminant, un dernier passage dans Psaume, chapitre 15, s'il vous plaît. Psaume, le chapitre 15. Un passage qui est vraiment motivant, puis ça nous montre en avant de nous, si on tient bon, si on persévère, avec courage, avec l'aide de Dieu, ce qui nous attend. La sorte de vie que nous aurons, l'autre étape de la vie humaine. Psaume chapitre 15, verset 1. Psaume de David. Éternel, qui séjournera dans ta tente? C'est qui Dieu qui va être dans ta maison? Qui va faire partie de ton gouvernement? Et il y a des conditions précises à ça. Qui va faire partie de ta famille, de la famille royale qui va administrer la terre bientôt? Qui séjournera dans ta tente? Qui demeurera sur ta montagne sainte? Et on sait, bibliquement parlant, le symbolisme d'une montagne. Qui va demeurer sur ta montagne sainte, c'est-à-dire dans ton gouvernement qui va administrer la terre? Qui? Qui sera membre de ta famille et qui sera membre de ton gouvernement sur la terre? Celui qui marche dans l'intégrité et qui pratique la justice. Et la justice, c'est la justice de Dieu, selon la vérité, selon sa vérité, et non pas la justice qu'on a pensé avoir à un moment donné. Mais il dit, celui qui marche dans l'intégrité, qui pratique la justice, qui dit la vérité selon son cœur. Et dans certaines versions, c'est qu'il dit la vérité selon le fond de son cœur. Pourquoi? Parce qu'il marche dans la justice de Dieu, dans la vérité de Dieu. Et il l'a intégré. Il l'a lu, il l'a étudié, il l'a appliqué dans sa vie. C'est devenu une partie de lui-même. Et c'est pour ça qu'il est en préparation pour être un serviteur de Dieu éternellement dans son royaume. Il a adopté la vérité divine, il l'a digéré, réfléchi, intégré, adapté dans sa vie. Ça devient lui, ça devient sa façon de vivre. Et on peut résumer dans ce sens-là, et ça revient à ce que l'apôtre Paul disait dans un des premiers versets qu'on a vus. La personne qui fait ça, c'est qu'elle a accueilli, elle a reçu l'amour de la vérité pour être sauvée, pour avoir la vie éternelle, pour faire partie de la maison de Dieu, pour faire partie de son gouvernement et pour régner éternellement avec le Christ sur l'univers.